La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous tous en ce jour de Pentecôte. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes en communion ce matin tous ensemble dans ce lieu et au-delà, là où les amis, les frères, les sœurs sont en train de regarder sur leur écran. Bienvenue aux familles des deux personnes qui vont confesser leur foi ici aujourd'hui à la suite du baptême qu'elles ont reçu enfant. Nous sommes particulièrement heureuses, Agnès et moi, d'avoir accompagné un bout du chemin de ces deux jeunes filles qui sont là avec nous ce matin et qui vont, vous allez le voir, confesser leur foi avec leurs mots. Nous attendons une autre famille qui va sans doute arriver si la course Adidas leur laisse le passage libre. Mais en tout cas, nous aurons la joie d'avoir ce matin le baptême du petit enfant qui va arriver bientôt, le petit Julian. Nous remercions aussi Alexandre Korovitch qui est avec nous ce matin et qui accompagnera ce temps de culte. Que l'Esprit Saint, qui est donné à chacun au jour de la Pentecôte, soit sur nous tous ce matin, dans nos engagements, dans nos vies, dans tout ce qui nous lie au Seigneur. Et je vous invite à chanter ensemble « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Vous avez tous les répons et toute la liturgie du culte dans le début des psautiers français.
Dieu. Dieu notre Père, c'est de toi que vient toute vie. Tu es présent dans chaque créature. Tu es caché et présent comme la vie au fond de chaque être. Dieu notre Père, si tu te retires, nous périssons. Si tu retires ton esprit, nous ne sommes plus que des cymbales retentissantes et des coques vides. Si tu te retires, notre vie n'est plus qu'une somme de devoirs, et ça, ce n'est plus vivre. Mais si tu renouvelles ton amour, nous pouvons aimer à nouveau. Si tu envoies ton esprit, nous pouvons te reconnaître en tous nos frères et toutes nos sœurs. Si par le Christ, tu es vivant en nous, nous sommes vivants en toi. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, je me réjouirai dans le Seigneur. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant dans le psautier français le chant du psaume 47. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Psaume 47. prenez place. Et nous invitons Solène et Paul à nous rejoindre.
Dans le livre du prophète Joël, l'Éternel dit : Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand.
Éternel, une femme est prise en flagrant délit d'adultère et d'autres pécheurs s'apprêtent à la punir pour ce qu'elle a fait. Mais à travers les paroles de Jésus, tu nous dis que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pardonne-nous nos condamnations implacables et pourtant infidèles à ta parole. Amen. Levons-nous pour accueillir le pardon de Dieu. La femme était toujours là, au milieu du cercle, et Jésus se redressa et lui dit : Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ? Non, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
vous invite à vous asseoir. Voilà, nous allons maintenant faire un tout petit changement liturgique. Donc Alexandre, nous passons à la liturgie de confirmation. Et j'invite donc à se relever les deux confirmantes qui étaient avec nous tout de suite. Voilà, venez, venez. Et si vos parents veulent venir, surtout qu'ils n'hésitent pas. Venez par ici les filles, voilà. Voilà, derrière le baptistère. Chères confirmantes, le jour de votre baptême, vous avez été déclarées enfants de Dieu. Vos parents, vos parrains et marraines ont promis de vous faire découvrir le Christ par leurs témoignages et leurs prières. Aujourd'hui, l'Église vous offre la possibilité de vous engager plus personnellement sur ce chemin. Vous avez suivi votre catéchèse ici, avec nous et avec d'autres pasteurs, avec d'autres moniteurs et monitrices d'école biblique, et vous pouvez maintenant dire ce qu'il en est de votre foi, au tenté aujourd'hui. Peut-être que vous en direz autre chose plus tard, mais en tout cas aujourd'hui, vous pouvez le dire avec vos mots. Et c'est une joie pour toute cette Église de savoir que vous faites cette démarche aujourd'hui. Je vais maintenant laisser Agnès s'adresser à Solène pour lui poser une question.
Solène, est-ce par une démarche sincère et volontaire que tu confesses ta foi aujourd'hui dans cette église ?
Oui.
Alors, parle en conscience.
Je crois en Dieu, Père des cieux et de la terre, même si nous ne pouvons ni le voir, ni être sûrs de sa présence. Je crois en Dieu, Père de tous les peuples, car il montre le chemin de la bonté à qui veut bien le suivre. Je crois en Jésus-Christ, Fils plein de passion, même si nous ne réapparaîtra jamais pour apporter sa lumière. Je crois en Jésus-Christ, Fils plein de courage, car il a eu la force de se lever pour faire changer son monde. Je crois en l'amour, cadeau du Créateur, même s'il est parfois compliqué de le trouver dans notre société actuelle. Je crois en l'amour, cadeau béni, car il parvient toujours à faire apparaître devant nous, rendant à celui qui en prend soin une vie meilleure. Oui, je crois en Dieu, en Jésus et en Saint-Esprit. C'est ma foi que je voulais vous partager en ce jour spécial. Je suis fière d'appartenir à l'Église protestante, maison de fraternité, de croyance et d'amour.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à un geste rituel, mais un geste qui a tout son sens depuis très très longtemps. Dans l'Ancien Testament, on trouve déjà ce geste comme engagement, comme signe d'engagement, comme mandat donné. Et j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure dans la prédication.
Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ait la vie éternelle.
Amen.
Je vous invite à vous lever. Et nous allons chanter le 204, la première strophe. Paul, si tu veux t'avancer. Voilà. Paul, est-ce par une démarche sincère et volontaire que tu confesses ta foi aujourd'hui dans cette église ?
Oui.
Alors Paul, parle en conscience.
Je crois en Dieu, notre Père, en son pardon, son amour et sa grâce. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Je crois en l'Esprit Saint, demeurant en notre esprit. Je crois en l'Église du Christ, universelle et accueillante. Je crois que Dieu est là pour moi et qu'il m'accepte comme je suis. Je crois à la puissance de Dieu qui m'aide à me construire dans ma vie, dans mon bonheur et dans mon malheur. Je crois que Dieu nous aide dans la vie quotidienne et nous éclaire dans l'épreuve. Je crois à mon appartenance à la communauté protestante.
Alors, peut-être tu vas tenir le micro, comme ça on va entendre. Paul, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que par lui
nous ayons la vie. Amen.
Je récupère mon petit instrument. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 204, la strophe 2.
Amis, frères et sœurs, Solène et Paul sont ici chez elles. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous continuerez de prier pour elles. Vous les associerez à l'édification de l'Église et vous les encouragerez dans leur joyeux service. Aucune contrainte ne les retiendra dans cette communauté et si elles venaient à s'en séparer, vous affirmerez qu'elles peuvent toujours y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour elles les témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu nous soit en aide, tous ensemble, que Dieu nous soit en aide.
Nous prions ensemble. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Paul et Solène, qui viennent de confirmer leur baptême par leur propre confession de foi. Nous te prions pour elles et pour leurs proches, et nous te remercions pour la fidélité de ton amour. Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Voilà, le petit enfant qui va recevoir le baptême est arrivé. C'était pas sans mal, hein. Tu te souviendras des 10 kilomètres de Paris. En tout cas, on te le racontera quand tu seras grand. Alors, peut-être Thomas... Alors, c'est maintenant le papa qui est coincé. Bon, ça va aller. On va penser à lui et on va vous l'associer. Je vais demander à Jessica peut-être de me rejoindre. J'espère que Thomas va pouvoir nous rejoindre vite. Ça va ? Oui. Jessica, vous avez demandé le baptême pour votre fils. Avec le parrain qui est ici, vous êtes ici dans cette maison pour ce moment important qu'est ce sacrement du baptême. Et l'Église aujourd'hui accueille votre souhait avec une grande joie. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jessica, votre enfant va être baptisé. Ah oui, venez, venez près de moi, venez. Votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, mort et ressuscité pour lui et qu'il appellera à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui, c'est notre espérance, la foi, l'espérance et l'amour. L'eau qui est ici est de l'eau ordinaire, mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême. Eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle qu'ensemble, nous vivons de son amour. Je vous invite à vous lever pour être témoin de ce baptême. Et je ne sais pas si Alphonse est là.
Oui.
Alors peut-être je vais demander à Alphonse de me rejoindre. Voilà, venez, venez. Alphonse, qui est un ancien conseiller presbytéral de l'Oratoire du Louvre, et je suis très honorée de pouvoir l'avoir à mes côtés pour ce baptême. Merci d'être là et de passer le flambeau dans votre famille pour qu'ils viennent eux aussi fêter ces jours de fête avec nous. Venez avec moi par ici. Juliane, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Pour toi aussi, Juliane, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Aller avec maman, c'est pas grave. Alors, parce que Juliane me connaît pas encore très très bien, hein, donc c'est normal. Hein, cet âge, il y a des âges où c'est compliqué de laisser maman quand même. Hein. Alors voici Juliane, voici votre petit frère dans l'église. Il est ici chez lui. Vous lui donnerez le soutien de sa prière à lui et à ses proches. Si un jour il venait à se séparer de l'église, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place, quoi qu'il arrive. Ce sera ainsi pour lui le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Voilà, Juliane. Voilà. Voilà. Et je crois que tu es d'accord. Oh non, 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 mais un peu de discrétion quand même. Hein. Alors, je vous invite maintenant à chanter ensemble le cantique 203. les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et nous avons bien sûr un petit souvenir de ce moment très important pour nos catéchumènes. Paul et Solène, vous allez vous relever encore. Alors, elles sont plus catéchumènes, me dit Agnès. Oui, d'accord, mais enfin, un peu de nostalgie quand même. Parce que c'était quand même bien de vous avoir comme catéchumènes. Venez, venez les filles. Alors, vous avez choisi chacune une Bible différente et donc nous avons pu vous offrir aujourd'hui cette Bible qui sera donc, alors non pas un livre de recettes, ça fonctionne pas du tout comme ça, mais en revanche un livre où vous trouverez tous les trésors pour la réflexion, pour la spiritualité, pour que vous puissiez réfléchir à votre vie et peut-être apprendre aussi beaucoup de choses sur l'histoire, sur beaucoup de sciences humaines ont repris des choses qui sont dans ce livre magnifique, dans cette bibliothèque extraordinaire. Et donc nous vous souhaitons de la lire souvent et d'y puiser tout le meilleur pour votre vie. Voilà. Alors, Solène, voilà la Bible d'études que tu as choisie et qui te permettra prochainement d'être avec nous pour enseigner toi-même aux plus jeunes de cette Église. Merci de cet engagement.
Paul, voici une traduction de la Colombe pour toi. Et mesdemoiselles, si jamais vous ne comprenez pas tout, nous sommes toujours là pour vous aider à vous expliquer des petits trucs. C'est pas mal. On peut, comme ça, on pourra se revoir.
Et Paul, merci d'avoir accepté de t'engager dans cette église pour tous les moments où nous accueillons et où nous partageons des moments de convivialité. Tu as souhaité t'engager de cette façon et donc prochainement tu pourras donc commencer ce service ici. Merci beaucoup. Voilà, je vous invite à cette fois-ci vous asseoir tranquillement. Aujourd'hui, sans surprise, nous allons partager ce texte de la Pentecôte, mais qui détient toujours des éléments nouveaux. Quand on le relit sans cesse, on s'aperçoit de nouvelles choses toujours. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Je vous invite maintenant à entendre ce texte particulier, ce matin, qui nous rappelle ce qui se passe à la Pentecôte. Vous connaissiez le film romantique peut-être, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc je pense que j'y ai pensé après, je me suis dit, mais en fait peut-être que les filles sont un peu jeunes pour avoir connu ce film. Quatre mariages et un enterrement, ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez? Qui raconte une histoire d'amour à rebondissement, de cérémonie en cérémonie. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons ensemble une cérémonie de la même tradition d'église que dans la Rome antique, et non pas une comédie romantique, mais qui pourrait s'intituler « Deux sacrements et deux credos », car c'est ce que nous avons ce matin vécu ensemble. Nous avons baptisé le petit Julian, et Solène et Paul ont confessé leur foi. Et puis, nous allons partager la scène aussi. Ces événements liturgiques sont constitutifs des premières églises chrétiennes qui se retrouvaient autour d'un repas, baptisaient les nouveaux convertis et, dans une catéchèse baptismale, confessaient leur foi avec des déclarations qui résumaient à elles seules ce au nom de quoi les fidèles se rassemblaient. De siècle en siècle, l'Ecclésia l'assemblée des croyants, repose sur les mêmes fondations. La différence la plus flagrante ici ce matin est sans doute la taille de la maison où se déroule notre culte. Les premiers chrétiens se rassemblaient dans des maisons de particuliers. Et c'est cette hospitalité à travers tout l'Empire et même au-delà qui permit aux idées du christianisme de s'implanter un peu partout, et particulièrement là où la diaspora juive était présente de longue date, parfois depuis l'exil à Babylone. La fête de la Pentecôte, la fête juive de Shavuot, où l'on fête l'anniversaire de la révélation de la loi à Moïse, est dans le livre des Actes transformée en fondation de l'Église. 50 jours après la résurrection de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui descend sur chacun pour faire de chacun un porteur de parole, un nouveau Christ en quelque sorte, qui va annoncer le salut de Dieu à ce monde en l'incarnant dans ce monde. Mais cet esprit qui souffle sur les apôtres ne va pas tous les inspirer de la même façon. Pierre, dans son discours, s'adresse aux hommes d'Israël, et même s'ils viennent de très loin, son discours qui suit le vent violent de la chambre haute, dans la chambre haute, est d'abord annoncé à des Israélites venus à Jérusalem fêter le don de la loi de Moïse, et donc une certaine façon d'être en religion. Et quand les auditeurs de Pierre ont le cœur transpercé, comme le dit le texte un peu plus loin, par ses paroles sur la crucifixion de Jésus, et qu'ils demandent « Frères, que devons-nous faire ?», Pierre leur propose le baptême comme signe de changement radical et de pardon des péchés. Dans le cas de ces Juifs convertis au christianisme, le problème se pose dans les termes du pardon des péchés. Au nom du Christ. Pour eux, c'est scandaleux de dire cela. C'est une affirmation scandaleuse pour le judaïsme où seul Dieu a le pouvoir de remettre les péchés. Et déjà, quand Jésus prêchait, il fut inquiété plusieurs fois pour avoir remis les péchés lui-même. Cet Esprit Saint qui permet de convertir ainsi les foules posera un problème dès l'origine au témoignage chrétien. Que l'on soit trinitaire ou non, là n'est pas la question. L'Esprit Saint fait partie du discours du christianisme dès son origine et on ne peut pas comme ça le retirer sous prétexte de penser que ce n'est pas une notion qu'on peut expliquer et qui soit rationnellement compréhensible. Ce qui pose problème aux Juifs de Jérusalem dès l'origine de cette conversion du judaïsme de Jésus au christianisme du ressuscité, c'est le rapport à la loi. Retirer les fondamentaux de la théologie de l'obéissance à la loi de Moïse pour laisser place à la vie selon l'Esprit en Jésus-Christ crée un vide éthique profond. Même si le pardon des péchés est donné, comme l'annoncent les apôtres, comment faire pour se repérer entre ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, vrai ou faux, si les jalons mis sur la route du croyant sont retirés pour laisser place à un horizon certes ouvert, où la liberté est le maître mot, mais où il est difficile de se déterminer soi-même. C'est le passage de la mer Rouge sans le mont Sinaï en quelque sorte, l'exode sans l'étape de la loi. Comment est-ce possible d'être sûr qu'on est fidèle dans ces conditions ? Pierre devra aller encore plus loin dans cette religion sans observance quand il remettra en cause les règles alimentaires du pur et de l'impur pour permettre à tous, païens et juifs, de faire église ensemble. Paul a un autre problème que Pierre. Dans son projet universaliste, il se heurte à l'inadéquation entre les observances de la loi juive et le public que sa mission touche. Il ne peut pas en effet demander à tous ces gentils, comme on les appelait, tous ces païens, tous ces Grecs, tous ces gens d'autres religions que le judaïsme, tous ces adultes qui ont vécu dans d'autres traditions, de se faire circoncire adultes pour entrer dans les nouvelles communautés qu'ils fondent au nom du christianisme. Il faut donc être radical et s'écarter de l'observance pour se rapprocher du cœur du message du Christ. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul écrit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. » C'est en se référant à sa propre conscience et à la conscience de l'autre que le chemin éthique de chacun se fera désormais. Les langues qui descendent sur chacun lors de la Pentecôte à Jérusalem sont semblables à des flammes, car elles sont comme cet esprit qui emporta Élie, le prophète, au ciel sur un char de feu. Cet esprit dont deux parts furent demandées par Élisée, son disciple, et obtenues par lui, lui permettant de passer le Jourdain à pied sec. Ces langues-là font appel à la liberté de chacun à se déterminer pour obéir à l'Esprit du Christ dans lequel désormais toute vie sera prise. Chacun des apôtres devra inventer sa manière de s'adapter, de dire, de proclamer la foi qui l'habite. Ainsi, devenant chacun le temple du Seigneur, chacun aura une flamme différente pour éclairer son action, mais à chaque fois, c'est le même Christ qui vivra en eux. Cette libération de la conscience de chacun est la véritable transformation que le christianisme va opérer dans son époque. Ce n'est plus la communauté qui est la norme de l'action de chaque fidèle. La loi pour tous ne fonctionne plus autrement que spirituellement, c'est-à-dire selon la conscience de chacun. Il n'y a donc plus ni Parthes, ni Mèdes, ni Élamites, ni aucune autre communauté que celle des baptisés au nom du Christ. La façon de se déterminer a fondamentalement changé. Chacun sa langue selon sa flamme, pourrait-on dire. Immédiatement, un problème se fait jour quand on entend ceci. Qui a autorité pour dire ce qui est dit ou fait est réellement chrétien ou non? Qui a le pouvoir dans l'Église, dans ces conditions, si chacun y va de sa propre conscience individuelle? Dans son livre « Le Léviathan », Thomas Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe siècle, réfléchissant sur le pouvoir ecclésiastique, explique comment cet esprit s'est transmis après la génération des apôtres. Et il écrit, et là, Paul et Solène, vous allez retrouver quelque chose que nous avons vécu ensemble, il est clair que le pouvoir ecclésiastique résidait dans les apôtres et après eux, dans les hommes que les apôtres avaient investis de la charge de prêcher l'Évangile, de convertir les hommes au christianisme et de conduire les convertis dans la voie du salut. Qu'après cela, le pouvoir fut transmis à d'autres, investi par les premiers, et que cette transmission s'opéra par l'imposition des mains sur ceux qui étaient investis. Ce geste signifiait que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, était donné à ceux qu'ils investissaient de la fonction de ministre de Dieu pour travailler à la grandeur de son royaume. Ainsi, l'imposition des mains n'était-elle rien d'autre que le sceau posé sur le mandat qu'ils recevaient de prêcher le Christ. On trouve ça dans le livre du Léviathan. Nous avons fait ce geste aujourd'hui. Et nous l'avons fait aussi sur le petit baptisé et sur les deux jeunes filles que vous avez entendues tout à l'heure, qui ont toutes deux dit leur foi avec leur propre langue selon leur propre flamme. Il y a fort à parier que ces trois personnes qui ont reçu le même mandat de prêcher le Christ ne le prêcheront pas de la même manière dans ce monde. Pourtant, c'est le même Esprit Saint, celui de Dieu, celui qui inspira Jésus et les apôtres et tous les convertis au christianisme jusqu'à ce jour, qui inspire encore aujourd'hui les trois personnes qui sont là. D'Antioche à Corinthe, en passant par Rome, les églises ont créé leur tradition locale pour parler avec leur langue à ceux qui cherchaient Dieu, C'est encore vrai aujourd'hui, et c'est cette diversité des langues et le même esprit brûlant d'amour pour l'humain qui anime encore aujourd'hui nos églises. Faut-il regretter que la doctrine ne se fixe pas une fois pour toutes, afin que nous puissions dire qui est chrétien et qui ne l'est pas ? Surtout pas. Nous serions alors tentés de prendre le pouvoir sur la conscience des autres. Et le pouvoir ecclésiastique l'a tant de fois fait. Pour vivre notre mandat de ministre de Dieu, de serviteur donc, car c'est bien là le sens du mot ministre, il nous faut accepter de vivre sous le régime de l'Esprit-Saint, celui qui nous guide dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres, et qui nous rappelle sans cesse à notre conscience et à notre liberté. C'est une voie exigeante, où rien n'est tracé à l'avance. Mais n'est-ce pas l'esprit de la loi de Moïse même que de chercher à libérer le peuple de Dieu ? Deux sacrements et deux credos, avons-nous dit en commençant cette prédication. Un baptême et deux confessions de foi personnelles qui nous rappellent avec leur originalité, leur singularité, que Dieu s'adresse à tous et que tous parlent sous son autorité quand ils choisissent de suivre sa voie. Mais c'est pour chacun de nous une histoire d'amour avec Dieu que personne ne peut comprendre de l'extérieur, si ce n'est par le témoignage que nous voulons bien en rendre. Et encore, sans toutefois épuiser tout ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes de cette relation de foi et d'amour qui nous construit, de cet esprit qui nous habite et dont nous ne comprenons pas toujours les tenants et les aboutissants. Dans la scène que nous allons partager, nous serons tous dans le même repas du Seigneur, mais chacun avec sa confession de foi personnelle en son fort intérieur. C'est cette conviction que chacun est en Église avec sa propre flamme selon le même esprit qui devrait être notre boussole en Église. Ce respect profond de la foi de l'autre et de son ancrage dans un mandat reçu de Dieu est la seule façon de régler les problèmes de pouvoir en Église. Pourtant, cela semble si difficile parfois. C'est cette conviction que Dieu parle à chacun selon sa langue qui nous relie les uns aux autres pour travailler en conscience au règne de Dieu pour ce monde. Et aujourd'hui, trois ministres supplémentaires de l'amour de Dieu nous ont rejoints pour cette tâche immense. Alors réjouissons-nous. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 171, les strophes 1, 2 et 3. Et peut-être on va écouter Alexandre une première fois. Merci Alexandre. Nous nous levons. Nous allons partager maintenant quelques annonces et c'est Aurore qui est avec nous pour partager ces annonces.
Merci Béatrice. Bonjour, au nom du Conseil presbytéral, bienvenue au papa. Merci vraiment d'avoir bravé les 10 km de Paris, mais c'est une raison supplémentaire pour vous abonner à la newsletter de l'Oratoire du Louvre que nous diffusons par email tous les vendredis, parce que nous avions signalé qu'il y avait les 10 km de Paris. Et c'est vraiment important, c'est le meilleur moyen de savoir vraiment ce qui se passe. C'est tous les vendredis soirs, vous inscrivez par email à cette newsletter. Également, merci à ceux qui sont restés à la maison prudents pour suivre. Vous êtes très très nombreux en ligne et nous avons également en ligne Gérard Delin et son épouse Meudelin du Vietnam qui sont en train de nous suivre et qui ont très gentiment pris plein de photos avec cette caméra. Donc nous allons en plus vous pouvoir vous remettre plein de photos du baptême de votre fils que vous n'avez pas pu malheureusement suivre. Voilà, quelques annonces donc, qui sont dans la newsletter. Mardi, tout est prêt. Donc venez déjeuner avec Béatrice Cléromazir juste avant le partage biblique et après le culte d'intercession avec Seine. Le partage biblique sera sur...
Alors sur la batte de l'Apocalypse, aïe aïe aïe.
Donc venez mardi. Jeudi, pot spirituel. Samedi prochain, hébreu biblique avec le pasteur Gilles Castelnau, qui est ici même, samedi matin, et également le Venez chanter avec le chœur, pour répéter un certain nombre de chants. Voilà. Également, si vous aviez eu la newsletter, vous sauriez que nous sommes en train d'essayer de lancer, en fait, si nous trouvons le financement, nous lançons la restauration de ces vitraux. Donc, voyez-vous, la lumière est allumée, là, ce qui n'est pas normal dans une église. Normalement, nous devrions, surtout un jour de Pentecôte, avoir une lumière naturelle, au lieu d'avoir des filets autour des vitraux cassés. Ils sont très, très encrassés. Si nous arrivons à les restaurer avec la ville de Paris, nous gagnerons entre 60 et 70 % de lumière. Ce qui permettrait, un jour de Pentecôte, d'éteindre la lumière et de voir la colombe qui est là, parce que nous avons une colombe, ce qui est assez rare dans un temple, colombe qui nous a été offerte en 1899 par un membre du conseil presbytéral. Alors je passe l'info au conseil presbytéral, si quelqu'un un jour veut faire un cadeau, qu'il n'hésite pas, ou aux anciens du conseil presbytéral qui sont dans l'assemblée. Voilà. Mais comme la lumière est allumée, vous ne pouvez pas voir la colombe puisque vous êtes ébloui par la lumière artificielle. Donc ce projet est déductible de vos impôts pour ceux qui payent des impôts. Donc impôt sur le revenu 66% sur l'impôt sur le revenu 2022, et pour ceux qui payent l'impôt sur la fortune immobilière, c'est même déductible d'ici le 8 juin à 75%. Donc je vous en prie, vous avez 3 jours pour remettre la lumière naturelle dans ce temple. Non, c'est un projet qui va durer 1 ou 2 ans, mais c'est un très beau projet. Nous espérons que vous serez très nombreux à y participer, que vous payez vos impôts ou pas d'ailleurs. Donc un grand merci à vous. Nous allons partager la scène juste après la scène, non, juste à la fin du culte. Il y a une petite surprise avec Alexandre, notamment, qui vous fera chanter samedi prochain. Il va aussi vous faire chanter quelque chose de spécifique. Donc restez bien avec nous à la toute fin du culte avant l'envoi. Merci beaucoup.
C'est le moment de l'offrande. Donnez le cœur joyeux pour tous les bienfaits que Dieu fait dans vos vies.
Pour entrer dans la liturgie de la Sainte Cène, nous invitons les personnes qui vont aider à la distribution de la Sainte Cène à nous rejoindre, ainsi que nous invitons la famille de Juliane et Solène et Paul à nous rejoindre. Et nous prendrons aussi le répond qui se trouve au début du psautier français qui s'intitule « Pare-toi pour cette fête ». Louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus le Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prions ensemble. Invités à ta cène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde.
Nous te prions, Seigneur, pour le petit baptisé d'aujourd'hui, pour sa famille, pour tous ceux qui l'entourent. Permets, Seigneur, que son chemin au milieu de tous ceux qui, comme lui, un jour ont reçu ce baptême, tous ceux qui suivent ta voie et qui s'exercent chaque jour à faire ta volonté, qu'au milieu de tout cela, le petit Juliane trouve son chemin avec sa propre façon de donner corps à ton salut. Nous te prions pour Paul et pour Solène, qu'elles soient toutes les deux accompagnés dans leur chemin par une communauté aimante, où ton amour et ta paix règnent. Que tu sois sans cesse auprès d'elle, elle n'en doute pas. Que nous soyons témoins de cet amour, alors oui, il faut que nous l'affirmions sans cesse. Il faut que nous y travaillions sans cesse pour pouvoir encourager ces deux personnes qui sont engagées pour ton nom. Merci Seigneur de nous faire partager ces moments de joie, ces moments si solennels dans une vie. Permets Seigneur que nous soyons dignes de ces engagements. Nous te prions Seigneur pour cette paix si difficile à gagner à travers le monde. Permets que nous soyons sans cesse à la recherche de cette paix et que nous puissions apporter notre pierre à cet édifice. Nous te demandons l'intelligence, nous te demandons la sagesse, nous te demandons tous les dons que tu peux donner à chacun pour bâtir la paix ensemble, malgré les violences, les incompréhensions et la cruauté dont les hommes sont capables. Permets, Seigneur, que nous soyons sans cesse dans ton esprit et que ce jour de Pentecôte ne soit pas isolé dans les jours et les années de notre vie, mais qu'il soit sans cesse dans une effusion constante pour nous. Et ensemble, nous te disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour la multitude. Prenez et mangez, prenez et buvez.
Éternel, merci pour ce repas que nous avons partagé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remettons toute cette grande assemblée et tous ceux qui sont au loin et qui sont avec nous par la communion. Bénis ce temps et que cette fraternité vécue autour du repas soit le modèle de nos relations humaines. Amen.
Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Amis, frères et sœurs, allez annoncer l'Évangile dans ce monde. Allez et soyez porteurs et porteuses du Christ. Le Seigneur qui fait route avec nous, nous bénit et nous garde. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen.
Alors nous avions dit qu'il y avait une toute petite surprise de la part de Alexandre, de tout le conseil presbytéral, de Béatrice et toute l'assemblée. Agnès, nous te souhaitons un excellent anniversaire. Et tu as non pas un bouquet de fleurs, non pas une Bible, mais un bouquet de chocolat.
Alors, je suis évidemment très très émue, c'est très rare que mon anniversaire tombe exactement un dimanche de Pentecôte. Ça tombe quelquefois un dimanche, mais pas forcément le jour de Pentecôte. Alors c'est une double joie aujourd'hui et une double ration de flammes.
Bon dimanche à tous, merci Alexandre.